Bonjour Brice.
Bonjour Patrice, bonjour à tous. La stupeur ce midi après l'annonce du décès d'Hervé de Talleyroy, ancien président du conseil départemental des Deux-Sèvres. Retour aujourd'hui sur la liquidation de l'entreprise Aluinov à Argentenay. 20 salariés sur le carreau alors que la région vient de verser une aide de 43 000 euros. Explication du dirigeant de l'entreprise ce midi sur Colline. Les chiffres de la population tout juste publiés par l'INSEE, ça augmente à Niort, Bressuire et Saint-Mexant, ça baisse à Thouars et Parthenay. Le blaireau, petit animal de nos campagnes, est à protéger selon plusieurs associations qui militent pour qu'il ne soit plus chassé. Et puis, une page d'histoire, un lien peu connu entre le camp de Struthof en Alsace et celui de Montreuil-Bellay juste après la Deuxième Guerre. Le camp nazi près de Strasbourg, utilisé ensuite pour punir les collabos par les FFI, a déporté des centaines d'Alsaciennes entre Thouars et Saumur à Montreuil-Bellay.
La météo de cet après-midi, ça devrait s'améliorer selon les cartes de Météo France.
L'ancien président du conseil départemental n'est plus. Hervé de Talleyroy est décédé brutalement à son domicile hier soir. Il avait 58 ans et était le père de 3 enfants et papy de 2 filles. Au cours de ses 5 mandats au conseil départemental des Deux-Sèvres, l'élu Les Républicains était connu pour ses qualités de consensus. Il était maire de la commune de Précigny jusqu'en octobre 2020 avant de succéder à Gilbert Favreau à la tête du conseil départemental des Deux-Sèvres. Journaliste au Figaro Magazine à Paris au début de sa carrière, il avait finalement choisi la vie rurale au milieu de laquelle il se sentait bien. Évidemment, les réactions sont nombreuses ce midi. La présidente du conseil départemental, Coralie Desnou, parle d'un homme bienveillant et sachant couper ses paroles d'un trait d'humour toujours bienvenu. Rodolphe Chalet évoque un homme qui savait défendre ses convictions profondément ancrées dans la tradition familiale, tout en respectant celle des autres. Nous avions peu en commun, mais l'amour des Deux-Sèvres pouvait nous rassembler, dit-il. Le maire de Niort, Jérôme Baloge, parle d'un homme profondément attaché à son territoire et à ses racines. Le préfet des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry, évoque un homme de consensus et de solution. Une autre disparition, celle de Catherine Corneau, l'ancien maire de la Chapelle Saint-Étienne, de 2001 à 2020, a succombé à l'âge de 63 ans des suites d'une longue maladie. Elle aura passé 37 ans au service de sa commune, en comptant la période où elle était adjointe au maire. Elle avait reçu il y a quelques mois la médaille de la ville de Montcoutant-sur-Sèvre avec les autres élus qui avaient participé à sa création. Ses obsèques auront lieu demain à 10h30 à la Chapelle Saint-Étienne. Une dizaine de pompiers sont intervenus cette nuit à Cerizay, au lieu dit La Vanelière. Une partie de mur s'est effondrée. Il s'agit du mur d'une maison inhabitée. Environ 12 mètres carrés se sont effondrés sur une surface globale de 80 mètres carrés. Les deux habitations contiguës ont été évacuées. 5 occupants ont dû être relogés. Les 8 occupants de l'autre maison ont pu, quant à eux, rejoindre leur logement. Et puis cette nuit, également à Niort, cette fois, une fuite de gaz survenue impasse des Myosotis a impacté 120 personnes. 4 barres d'immeubles de 40 logements ont dû faire face à une coupure du réseau. GRDF a fait appel à des engins lourds pour réparer cette nuit et permettre un retour à la normale ce matin. 11 personnes ont été évacuées durant l'opération. Elles ont pu regagner leur logement ce matin. Course poursuite mardi soir sur les routes de Sévrienne. Pour échapper à la police, après un refus d'obtempérer, une conductrice a roulé à 200 km/h sur la départementale 611 en direction de Saint-Mexant. Les deux jeunes femmes de 17 et 23 ans ont été placées en garde à vue. La dernière, qui se trouvait au volant, n'avait pas de permis.
Retour, Boris, ce jeudi sur la liquidation de l'entreprise Aluinov à Argentonnet.
Nous évoquions ce début de semaine sur Colline la fermeture plutôt inattendue d'Aluinov, cette entreprise reprise en septembre 2020 qui employait une vingtaine de salariés. Elle venait de percevoir une aide de 43 000 euros de la région pour soutenir un développement ambitieux. Le carnet de commandes était plein et pourtant, 2 mois plus tard, la société met la clé sous la porte. Pour le gérant Pascal Herry, tout a été fait pour répondre à la demande, mais faute de matières premières, impossible de tenir plus longtemps à Aluinov ayant sa propre gamme.
Quand le marché s'est tendu par la matière première, ben les premiers à qui on est venu annoncer des hausses et des délais très importants et même augmenter les volumes en tonnage par barre, une barre pour la commander, on achetait par 500 kilos, on nous a obligés à passer à la tonne. D'un délai de livraison qui était de un mois et demi, on est passé à 5 mois, sans parler de la hausse des matières. Donc, dans une société qui est en difficulté, les délais, l'incapacité de produire, malgré un carnet de commandes qui était très très fort, mais quand vous ne produisez pas, vous ne facturez pas, quand vous ne facturez pas, vous n'avez pas de trésorerie qui rentre.
Quant à l'information des salariés, le gérant d'Aluinov explique avoir tenu une réunion le 30 novembre faisant part de la situation avec une priorité, payer les salaires.
Quand vous êtes une procédure comme ça, il y a quand même un laps de temps. Vous voyez, là, on a été déclaré le 21 et c'est que maintenant, c'est que demain que le mandataire voit les salariés qui vont enclencher les prises en charge par les assurances. Moi, je voulais surtout pas, c'est que les gars se retrouvent payés à la 5-20-20, comme on dit chez moi dans le Nord, c'est-à-dire qu'à long terme. Donc on a tenu jusqu'au 30 pour pouvoir leur faire les salaires. J'ai même été plus loin, je me suis mis en risque, moi, à titre personnel, de pénal, en ne payant pas les charges pour pouvoir préserver les salaires, même si aujourd'hui, il faut reconnaître que les gars sont dans la menuiserie aluminium et qu'ils n'auront aucun souci pour trouver du job.
D'ailleurs, Pascal Héry va proposer de reclasser 5 salariés dans ses autres entreprises. Une fermeture à Argentonnet qui peut sembler surprenante quand on sait qu'il y a quelques mois, la région soutenait encore financièrement les projets de développement de la société.
Quand j'ai racheté l'entreprise, on avait un projet avec la région d'une nouvelle usine. On avait choisi l'architecte. Et tout est parti en 4 mois depuis ces problèmes de matière. C'est parti en sucette. Parce que quand vous avez une société, quand vous avez une société en difficulté, une trésorerie qui est fragile, si vous ne facturez pas, vous ne rentrez pas l'argent. Beaucoup d'unités dans les métaux appartiennent aux Chinois. D'ailleurs, je rappellerai qu'on a laissé filer quelques-unes des unités dans l'est de la France il y a quelques années. Donc à partir du moment où ils détiennent la matière première, ils arrosent les marchés qu'ils préfèrent. C'est un peu comme dans le bois panneau, puisque je suis issu aussi du bois panneau. J'ai toujours connu dans le bois panneau que quand les Américains ils avaient une recrudescence de l'immobilier, on ne fournissait plus les négociants français en bois panneau sur le marché. On priorisait les Américains parce qu'ils payaient plus cher le panneau. Ben là, on s'est retrouvé un peu dans la même situation.
Les explications de Pascal Héry, le gérant de l'entreprise Aluinov à Argentonnet, tout juste fermé. Une 20aine de salariés sont concernés par cette liquidation.
L'INSEE vient de publier les derniers chiffres démographiques.
La population des Deux-Sèvres augmente légèrement, 374 878 habitants. C'est 79 de plus que l'an dernier. Niort continue de grossir, 59 193. Bressuire se développe aussi, 19 850. Autre croissance constatée, celle de Saint-Mexant-l'École avec 7 242 habitants. En revanche, Parthenay perd encore du monde, ils sont 10 089. Mel et Thouars sont aussi sur une pente descendante. Thouars passe sous la barre des 14 000 avec 13 886 habitants. Quand bien même ces données prennent en compte la fusion de 2019.
Elles ne veulent plus que le blaireau soit une espèce chassable.
L'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS et Deux-Sèvres Nature Environnement mènent pour ça un bras de fer avec les autorités. Le 18 novembre, l'ASPAS a d'ailleurs gagné une première manche devant le tribunal administratif de Poitiers. Mais pour Cyril Alexandre, délégué départemental de cette association, le combat continue car pour lui, cet animal qui appartient à la famille des Mustélidés a toute son utilité. Le blaireau qui est d'ailleurs bien présent chez nous.
C'est un animal qui est bien représenté au niveau du département. Il y a une répartition qui est plutôt homogène hein, au niveau à l'échelle du département. Il occupe essentiellement des zones boisées, des bosquets. Donc on a quand même dans le département des paysages avec du bocage, hein, donc avec des haies, avec des sous-bois, avec des massifs forestiers. Donc il est quand même relativement bien présent. Donc il participe notamment à la régulation des rongeurs, même si c'est pas l'essentiel de son alimentation. De ce fait-là, il y a aussi des effets en cascade sur les problématiques sanitaires, notamment la maladie de Lyme, hein, puisque ce sont essentiellement les rongeurs qui sont porteurs des tiques qui vont véhiculer cette maladie. Donc le mustélidé blaireau, comme les autres mustélidés et le renard, contribuent à limiter la maladie de Lyme sur le territoire.
Même si le blaireau a son utilité, peut-il aussi entraîner des nuisances? Explication de Cyril Alexandre.
Alors, il peut y avoir potentiellement des problématiques très localisées, soit sur des cultures, soit sur des infrastructures, comme une voie ferrée par exemple, ou au bord d'une route. Il construit un habitat souterrain qui est relativement complexe, qui peut parfois effectivement provoquer des affaissements au bord d'une route ou d'une voie ferrée, ou sur des chemins agricoles qui peuvent perturber le passage des engins agricoles. Mais ce sont des cas très localisés, minoritaires, qui ne justifient pas la chasse sur l'ensemble de l'Hexagone.
Nous ne sommes pas des anti-chasses, mais nous nous opposons à cette élimination du blaireau relevant du divertissement et du loisir, ajoute ce représentant de l'Association pour la protection des animaux sauvages.
Une page d'histoire ce jeudi avec un lien entre le camp de concentration de Struthof et celui de Montribet.
Le camp de Struthof est le seul camp de concentration nazi avec chambre à gaz et four crématoire ayant fonctionné sur le territoire français. français, tout simplement parce qu'à l'époque, l'Alsace avait été reprise par les Allemands. Le rapport avec Montreuil-Bellay, en 1945, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les FFI ont repris le camp de Struthof, ils y ont interné des centaines d'Alsaciens accusés d'avoir collaboré, certains sur simple dénonciation, et parmi les prisonniers, des centaines de femmes alsaciennes qui sont passées de Struthof à Montreuil-Bellay. Écoutez Jean-Michel Dard, guide au camp de Struthof en Alsace, qui évoque cette sombre page de l'histoire française.
Alors oui, en 1944, à la découverte des Américains, après décembre 44, ce camp est réutilisé par les FFI, qui vont le transformer en centre d'internement. Un centre d'internement réservé aux collaborateurs ou aux personnes soupçonnées de collaboration. Par la suite, beaucoup d'exactions vont avoir cours à l'intérieur du camp, d'Alsaciens envers d'autres Alsaciens. Donc il y a des règlements de compte qui vont se faire. Au bout d'un moment, ces règlements de compte arrivent aux oreilles du préfet et le préfet donc décide en novembre 45 d'évacuer le centre d'internement. Tous les internés sont donc transférés vers le camp de Montreuil-Bellay, Pithiviers et d'autres camps en France où là, des enquêtes vont être menées pour savoir qui est un collaborateur, qui ne l'est pas. Voilà, donc il va y avoir des femmes qui vont être envoyées à Montreuil-Bellay. On a aussi le témoignage des femmes qui vont donner naissance à des enfants à Montreuil-Bellay suite aux viols qui ont été perpétrés par les FFI sur ces femmes allemandes ou alsaciennes arrêtées à ce moment-là.
Jean-Michel Dard, guide au camp de concentration de Struthof, pas très loin de Strasbourg en Alsace. Les femmes violées par les gardiens du Struthof à l'époque où il était contrôlé par les FFI avaient donc ensuite été transférées au camp de Zigane de Montreuil-Bellay. Des faits évoqués dans l'ouvrage Zigane de Chris Mirror, basé sur les travaux de l'historien Jacques Sigaud, qui mentionne ses naissances à l'automne 1945 dans le camp de concentration pour nomades situé au lieu-dit Méron à Montreuil-Bellay entre Thouars et Saumur.